Et j'ai à cœur de vous partager ce matin un aspect de la pédagogie de Dieu. Aurore, elle va être contente. Aurore a dit, je traversais un désert. Tiens, tiens. Ce matin, on va vous inviter tous à faire un tour dans le désert. Eh oui. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que Dieu, eh bien, il nous fait passer par l'école du désert. Parce qu'il veut effectivement, il y a des choses à nous apprendre, il veut nous former. Et donc c'est quand même intéressant. C'est pour ça le titre, c'est j'ai mis traverser le désert, épreuve ou tentation, bénédiction ou malédiction. Parce qu'on va voir que l'épreuve, elle est voulue par Dieu, et que si on se laisse donc travailler par l'épreuve, on va être béni. Mais que la tentation, elle ne vient pas de Dieu, et qu'il faut tout faire justement pour ne pas tomber dans la tentation. Mais que le désert, c'était les lieux où à la fois on est béni, mais on peut aussi, malheureusement, se laisser tenter. Donc, on va faire une traversée du désert ce matin. Bon, l'équipement importe peu, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de chameau, il n'y a pas besoin de prendre ses gourdes, mais on va quand même écouter les conseils du guide, et là, on va quand même prier le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous guider à travers ce cheminement qu'on va faire ce matin, à travers le désert. Seigneur, eh bien, ce matin encore, on veut être à l'écoute de ta parole et nous prions pour que ton Saint-Esprit puisse parler à chacun à travers ce que je vais exposer, que tu m'as mis à cœur de partager, c'est-à-dire avec les frères et sœurs, que nous soyons attentifs, réceptifs, mets le doigt sur ce que tu veux montrer à chacun, Seigneur, et qu'au travers de ce qui va être rappelé de ta parole, chacun soit encouragé, chacun soit fortifié. Chacun trouve réponse à ses questions, peut-être que tu donnes conseil. Seigneur, que cette parole qui est vivante, eh bien, elle puisse agir encore ce matin dans les cœurs de tous mes frères et sœurs qui sont là. Seigneur, on te le demande, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, point de départ, le premier point, eh bien, l'épreuve, elle est voulue par Dieu. L'apôtre Jacques, déjà, j'invite à prendre. L'apôtre Jacques, il commence sa lettre par des versets étonnants, en fait. Puisqu'il parle de l'épreuve. Et il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Voilà pourquoi on doit se réjouir de l'épreuve, parce qu'elle va former notre foi, elle va la rendre mature, et elle va nous rendre aptes à servir Dieu. Parce que Dieu veut qu'on lui fasse confiance, Dieu veut qu'on s'abandonne à lui, parce qu'il a envie de bénir. Et là, on va donc illustrer à partir de l'expérience qu'a connue le peuple hébreu, hein, libéré d'Égypte. Dieu voyait que son peuple souffrait, il entendait les cris, il était patient, il les a laissés souffrir quand même quelques centaines d'années. Hein. Bon, puis un jour, il a décidé quand même de les libérer. Hein. Et donc, il va envoyer donc, Moïse auprès de Pharaon, et on sait que on connaît l'histoire de la sortie d'Égypte. Mais ce que je voudrais vous mettre en évidence, un point particulier, là, c'est que pour passer de l'Égypte vers Canaan, c'est le pays promis, le pays où coulait le lait et le miel, là où Dieu voulait amener son peuple, il y avait deux chemins. Il y avait un chemin direct, on appelait la route du pays des Philistins. Ça aurait pris quelques jours pour y arriver. Bon. Et il y avait le chemin le plus long, qui faisait contourner par le désert. Le problème, c'est que la route la plus directe, il y avait des forteresses des Égyptiens qui étaient installées, et le peuple aurait eu, sitôt sorti d'Égypte, à combattre. Il se serait retrouvé dans la bataille, et Dieu ne voulait pas que son peuple connaisse cette épreuve. Ils auraient été tentés de rebrousser chemin et de revenir en Égypte. Donc, Dieu va les faire passer par le désert. On peut lire donc en Exode 13, vous allez le lire avec moi, 13, 17, 18, Exode 13. Il est mis que lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu le fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Donc c'est important. Ça veut dire que tu te trouves dans le désert, c'est pas parce que tu t'es trompé dans ton itinéraire, que tu as mal lu la carte, que c'est dû aux circonstances. Non, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu a fait faire un détour à son peuple par le désert parce que Dieu voulait que le peuple se trouve dans une situation de dépendance, qu'il apprenne justement à éprouver qui était Dieu dans sa puissance, dans sa bonté, etc. Donc ça, c'est le premier point. L'épreuve, elle est voulue par Dieu. Deuxième point, c'est que parce que Dieu a des choses à nous dire. Et donc c'est quand même rassurant de se dire que si Dieu me fait passer par le désert, c'est pas pour que j'éprouve la situation. Vous savez que dans un désert, il fait chaud, hein, on manque de nourriture, on manque de repères, les nuits sont fraîches des fois, enfin c'est très inconfortable. C'est pas pour ça que Dieu nous emmène au désert, Dieu nous emmène parce qu'il a des choses à nous dire. Il veut parler à notre cœur. Et par la bouche du prophète Osée, d'ailleurs, Dieu dira à son peuple pourtant rebelle, à son peuple infidèle, il va lui parler en prenant l'image d'un jeune homme qui cherche à reconquérir le cœur donc de celle qu'il aime. Et il déclare en Osée 2:16, c'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. Et Dieu va faire que le peuple s'en est en déportation. Et cet exil va être à nouveau, un peu comme dans la traversée qui a duré 40 ans, va être une épreuve dans laquelle le peuple à nouveau va être dépendant de Dieu, mais va apprendre et bien expérimenter que Dieu l'aime, que Dieu a un amour qui ne change pas, même quand le peuple est infidèle. Je l'amènerai au désert, je parlerai à son cœur. Donc ce désir que Dieu a effectivement à parler au cœur de chacun, eh bien, va faire qu'on va se trouver dans des situations difficiles, parce que Dieu veut montrer qu'il est lent à la colère, qu'il est plein d'amour, plein de miséricorde, et surtout, il veut nous éduquer. Il est comme un père qui veut éduquer ses enfants. On a rappelé, on revient à la précédente. Hein. Oui, non, non. On a rappelé ce matin qu'on est enfant de Dieu, parce que Dieu a décidé de faire de nous ses enfants, par la puissance de Dieu, et que un père cherche toujours à éduquer ses enfants. Et malheureusement, on est une société maintenant, dans l'éducation, il y a une chose qu'on n'a plus le droit de faire, c'est même la loi est passée, on n'a plus le droit de sanctionner, de punir, de châtier. Et Dieu, dans sa pédagogie, lui, en fait, ben, il va prendre les moyens les plus efficaces, et il n'y a pas mieux. Hein. Il est écrit donc en hébreu, vous avez le verset qui est répertorié, qui est marqué là, hébreu 12, 5 et 6, qui lui-même cite un verset des Proverbes, Proverbes 3, 11 à 12, donc c'est souligné deux fois. Donc, mon fils, ne prends pas la légère la correction du Seigneur, ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, à travers ces versets, c'est une exhortation à reconnaître derrière l'épreuve la main de Dieu qui veut nous corriger, qui veut nous former. C'est important. Et j'en profite, j'ouvre une parenthèse, bon, le temps de canicule qu'on a connu là. C'est vrai que le temps qui se détraque un peu, il y a eu des tornades encore dernièrement, épouvantable. C'est pas simplement, je dirais, une conséquence, comme on veut nous faire croire, vous savez, la couche d'ozone, les effets des gaz à effet de serre, etc., la pollution. Non, non, non. Il faut y voir, et ça j'en suis sûr, il faut y voir un avertissement de Dieu. Dieu envoie une épreuve et il veut montrer, en fait, ça va mal, je suis là. Ça va mal, il n'y a que moi qui peux vous tirer d'affaire. Hein? Qui est-ce qui va envoyer la pluie? C'est moi. C'est pas vous, avec vos technologies et tout, vous pouvez rien. Hein? Vous pouvez pas maîtriser les tornades, vous pouvez rien faire. Je suis Dieu, je suis souverain. Mais qui pense à prier Dieu, tourner vers Dieu, pour qu'il fasse moins chaud, pour qu'il pleuve? Qui pense, vous rappelez comment Élie, dont nous parle l'apôtre Jacques justement, à la prière d'Élie, le ciel s'est fermé, il n'a pas plu pendant 3 ans, c'était la famine. Et quand Élie à nouveau a prié, le ciel s'est ouvert et l'eau est tombée, la pluie est tombée. Et Jacques nous dit, Élie est un homme comme nous. À la différence peut-être qu'il avait une foi efficace, une foi qu'il a mis en action. Et aussi, Élie voulait prouver que le Dieu de la pluie, c'était pas Baal, c'était pas les divinités, c'était pas l'homme avec sa technologie, c'était lui. C'est lui qui pouvait faire pleuvoir, etc. Donc, Dieu nous interpelle par les épreuves, c'est vrai. Et en fait, c'est un des seuls moyens que Dieu a encore pour nous interpeller, c'est l'épreuve. C'est pratiquement, il lui reste que ça. Si je vous posais la question, là, si on faisait un sondage, les trois quarts d'entre vous, si vous êtes venu à Dieu, un jour, c'est parce que vous êtes passé par des moments difficiles. Je suis sûr que pour les trois quarts, ça s'est passé comme ça. Bon, donc ça, c'était, Dieu veut parler à travers l'épreuve. Troisième point maintenant, il va nous mettre en situation pour nous parler, justement. Parce que souvent, on n'a pas le temps d'écouter Dieu. On est pris, bon, c'est le rythme du travail, c'est le monde un peu assourdissant. Donc Dieu veut nous ménager des situations dans lesquelles, bon, c'est vrai que ça va être éprouvant, ça va être difficile, mais il va quelque part, eh bien, nous mettre à part. Ce que je vais qualifier un désert, parce que dans le désert, si vous voulez, bon, à part les côtés difficiles à supporter, dans le désert, vous avez rien. On n'est pas distrait, il n'y a pas de bruit assourdissant, on peut écouter. Il y a un cheminement intérieur qui se fait dans la pensée. Dans le désert, on peut être à l'écoute de Dieu. Donc Dieu, j'ai noté quelques exemples pratiques dans lesquels Dieu, eh bien, il nous met en situation de pouvoir l'écouter. Ça peut être un accident, une maladie, on se retrouve dans un lit d'hôpital. Bon, eh oui. Et là, ben, on est sur le dos, on ne peut rien faire, que regarder le plafond. Les pensées, ben, elles dépassent le plafond, on pense quand même à Dieu. Et nous, peut-être qui étions des bourreaux du travail, on n'arrêtait jamais et tout, on ne savait pas s'arrêter. Et bien là, maintenant Dieu dit, maintenant, t'as plus qu'à t'arrêter, t'as plus qu'à laisse-moi faire, écoute-moi. Et là, on est bien obligé de prêter l'oreille à ce que Dieu veut nous dire. Ça peut être un drame familial, bon, la perte d'un être cher, un divorce, donc on ressent une solitude, on sent vraiment un abandon, tout semble s'écrouler. Et Dieu dit, t'inquiète pas, je suis là, je vais te consoler, hein, je suis à tes côtés. Bon, Dieu, il est là pour nous apprendre, nous rappeler qu'il est toujours là. Ou alors enfin, des problèmes financiers, ça peut être le chômage, ça peut être bon, perte d'emploi, ou alors des ressources qui posent problème, on est dans le besoin, et Dieu veut nous dire, t'inquiète pas, je suis là, je vais pourvoir, fais-moi confiance. On met dans une situation d'abandon. Ou alors des choix difficiles. Bon. Décision pour un métier, pour des études, enfin des achats à faire. Il y a des choix difficiles. On ne sait pas. Et on est un peu perdu dans le brouillard. Dieu dit, t'inquiète pas, hein, je vais diriger tes démarches, fais-moi confiance, je sais ce qui est meilleur pour toi. Donc on pourrait multiplier les exemples. C'est des situations dans lesquelles Dieu nous met un petit peu hors du train-train, la routine. Et là, on est bien obligé de, bon, marquer un arrêt. Et spirituellement, ben parfois aussi, ben, on lit la parole, mais bon, ça ne nous parle pas trop, on a du mal à prier, on sent pas, Dieu il est là, mais bon, non. Sécheresse spirituelle, ça arrive, ça arrive. Tout ça, donc, c'est des situations difficiles, parce que Dieu veut nous parler, il veut nous assurer surtout. Et de quoi il veut nous assurer? Eh bien, de ce qu'il a assuré au peuple hébreu, hein, qu'il est présent, il y avait la nuée, la colonne de feu, tous les jours, hein, il était guidé. Bon, là, il y avait le tabernacle, bien sûr, présence de Dieu. Et quand la nuée s'arrêtait, on installait le camp. Mais ce n'était pas évident parce qu'on ne savait pas pour combien de temps. Et peut-être c'était pour un mois, 2 mois, quelquefois quelques jours. Et quand la nuée partait, il fallait décamper. Dieu était présent et il se rendait présence par la nuée. Il veut montrer sa toute-puissance. Rappelez-vous, les Hébreux face à la mer, les cavaliers de Pharaon derrière, coincés. Impossible. Situation humainement, on ne peut plus rien. Dieu va ouvrir la mer. Miracle, entre autres. Hein. Bon, Dieu a fait des miracles et a manifesté sa puissance. Il a manifesté son amour, sa bienveillance. Chaque matin, la manne, elle était là pour le nourrir. L'eau coulait du rocher. Les vêtements, les chaussures ne s'en sont pas usées. Dieu était prévenant, plein d'attention pour son peuple. Dieu veut aussi assurer ben, de sa fidélité. Il a fait des projets, il a dit, je vous amènerai dans le pays promis, et un jour, eh bien, hein, le peuple, avec Josué, franchit le Jourdain et arrive dans le pays, avec Jéricho, avec les murs qui s'écroulent, vous connaissez l'histoire. Bon. Donc Dieu veut effectivement nous assurer dans ces temps difficiles, hein, des choses très importantes le concernant. Et Dieu est un Dieu pratique, en fait, parce qu'en fait, il ne se contente pas de dire, il agit conformément à ce qu'il dit. Et réfléchissez un peu. Comment pouvez-vous dire que Dieu est un Dieu qui guérit si jamais vous n'êtes malade? Vous n'en ferez pas l'expérience. Comment vous pouvez-vous dire que Dieu est un Dieu qui pourvoit si jamais vous êtes dans le besoin? Eh oui. Comment vous pouvez affirmer que Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui relève et tout, si vous n'êtes jamais dans des situations difficiles, vous devez faire appel à lui. Donc Dieu, il nous met, il veut montrer qu'il est bien là, le Dieu qu'il affirme être, en fait. Donc c'est pour ça que l'école du désert, elle est quand même bénéfique, vous voyez. Donc on a vu, c'est voulu par Dieu, Dieu il veut nous dire des choses, et Dieu nous met à part. Et quatrièmement, maintenant, il faut savoir que le désert, c'est un passage difficile, mais ce n'est pas la destination. Si Dieu nous y fait passer, ce n'est pas pour qu'on y reste. Il veut nous conduire, c'est l'objectif, c'est la terre promise. C'est le pays des bénédictions, bien sûr. Prenez avec moi le passage qui est dans 1 Corinthiens 10. L'apôtre Paul rappelle justement, pour que ça nous serve d'enseignement, ce qui est arrivé au peuple hébreu. 1 Corinthiens 10. « Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme ils tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc Dieu rappelle l'expérience des Hébreux qui, dans la traversée du désert, malheureusement, ont cédé à l'incrédulité, ont cédé aussi, je dirais, à l'ingratitude, parce qu'en fait, imaginez, ils ont vu tous ces miracles, le passage de la mer Rouge, tous les matins, il y avait la manne à manger, il y avait l'eau à boire, Dieu prenait soin d'eux. Et au bout d'un certain temps, eh bien, ils regrettaient la nourriture qu'ils avaient lorsqu'ils étaient esclaves. Au point même que certains voulaient retourner en Égypte. Quelle ingratitude! Entre parenthèses, vous n'avez jamais rencontré des chrétiens qui ont fait une démarche, qui ont connu Jésus, qui se sont engagés, qui ont marché, qui ont pris l'engagement par les eaux du baptême. Et un jour, ils en sont à regretter les facilités d'une vie qui était marquée par le péché, malheureusement. Et ça existe, malheureusement. Donc, incrédulité, ingratitude et idolâtrie, surtout. On l'a lu. Bon, il y a eu les murmures et tout. Parce que Dieu, en fait, et c'est là que c'est important de comprendre, Dieu voulait les mettre à part, mais c'était pour qu'ils reconnaissent qu'il était le seul Dieu. Et c'est là qu'effectivement, eh bien, vous avez que seul Josué et Caleb, en fait, ne vont pas effectivement prêter, ne se laisser influencer par le rapport. Vous savez, quand les espions sont partis explorer la terre promise. Ils ont fait un rapport très négatif. Ils ont dit, en nombre 13, « La population que nous avons vue sont des gens très grands. Nous avons même vu des géants, des descendants d'Anak. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Bon. » Ils se sont laissés, et les Hébreux, ils se sont laissés impressionner par les apparences. Et on parle de désert. Vous savez qu'il y a un phénomène dans le désert qui est des mirages. C'est quoi un mirage? Un mirage, c'est qu'on prend pour la réalité ce qui n'est finalement, qui n'est pas la réalité. C'est un peu comme un reflet à travers un miroir. Vous avez la chaleur qui fait que, à travers les couches d'air, ça vous reflète, et vous croyez voir l'oasis avec les palmiers devant vous, alors qu'en fait ça se trouve ailleurs. Ça, c'est un mirage. Bon. Et le peuple hébreu, en fait, bon, a cru voir, je dirais, comment dire ça, le problème là où il n'était pas. Parce que le problème, c'était pas les géants, le problème, c'était leur manque de foi. Donc, faut se méfier parfois, on est dans le désert, faut se méfier des mirages, parce que le mirage, c'est pas la réalité, le mirage, c'est pas la vérité. Le mirage, c'est l'ennemi qui cherche à nous, à nous faire miroiter. On a soif. Hein, il nous dit, allez, va par là, tu vas trouver à boire. En fait, on va s'égarer. Et en fait, au bout d'un moment, après beaucoup d'efforts, on aura encore plus soif. Et voyez là le plaisir du monde, en fait, tout ce que le malin peut faire pour nous dévier de cette route que Dieu a tracée dans le désert, on va en reparler après. Donc vous voyez, il y a l'incrédulité, l'ingratitude, et puis aussi donc l'idolâtrie, effectivement. Et là, quand on parle d'idolâtrie, il faut comprendre, et là c'est le cinquième point, c'est que cette traversée du désert, Dieu voulait mettre son peuple à part, mais à part d'un milieu idolâtre. Parce qu'en fait, la première raison que Dieu va dire à Moïse de donner à Pharaon pour qu'il laisse aller son peuple, c'est en Exode 4, 22-23. « Tu diras à Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné, je te l'ordonne, laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. » Et effectivement, donc, en Exode 5, on retrouve Moïse et Aaron qui vont dire à Pharaon, ils vont dire, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur, dans le désert. Et il précise, laisse aller le peuple à 3 jours de marche pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Alors pourquoi s'avancer à 3 jours de marche? Pharaon va poser la question d'ailleurs. Parce que quand Pharaon va être décidé, il va dire, d'accord, vous pouvez y aller, rendez un culte, mais il va dire, dans le pays. C'est 8:21, allez faire des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Leur dit Pharaon. Mais Moïse et Aaron rétorquent en 8:22, il n'est pas convenable d'agir ainsi, car nos sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, seraient considérés comme abominables par les Égyptiens. Donc Dieu voulait mettre son peuple à part pour qu'il rende un culte, mais loin de tout un peuple idolâtre. Et ça, c'est important de comprendre que le cœur à cœur avec Dieu, avec son peuple, n'était possible en fait que hors d'un monde païen et idolâtre. Et souvent, Dieu va nous mettre dans un désert pour qu'on prenne un peu de recul par rapport au monde dans lequel on vit, qui est un monde idolâtre, malheureusement. Il veut faire de nous un peuple d'adorateurs. Et qui dit adoration, dit bon, présence intime, en présence du Dieu saint, quand même, c'est important. Et ça, c'est pas possible dans le monde dans lequel on vit, souvent. Un monde qui rejette Dieu, un monde qui même bafoue les lois de Dieu. Et c'est pour ça qu'on on pense à ce que dit Paul. On était à 1 Corinthiens, on va voir dans 2 Corinthiens 6, Paul rappelle, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. Dieu veut qu'on mène une vie pleinement sainte. Et saint, ça veut dire séparé, séparé du monde, séparé du péché, important. Dieu nous amène au désert, il veut parler à notre cœur, je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. Donc, et c'est un lieu où Dieu, maintenant, veut rencontrer. Ah oui, on est donc numéro 6. J'ai oublié de vous dire au départ, on fait 8 stations, 8 étapes. Bon, il n'y en a plus beaucoup, j'aurais dû vous le dire. Pour vous. Mais bon, elles ne sont pas trop longues. Donc le sixième point, c'est que Dieu veut effectivement qu'on lui rende un culte, mais il veut surtout, il veut rencontrer l'homme et pour lui faire part de ses projets surtout. Bon, on pourrait parler de Moïse. Moïse, effectivement, on connaissait tous la rencontre de Dieu à travers ce buisson qui se consume pas, le buisson ardent, et c'est donc là que Dieu va se révéler à Moïse et va l'envoyer auprès de Pharaon. Mais je veux insister davantage encore sur les lieux de rencontre. Là, il y a des puits. Ce qui fait la richesse du désert, c'est qu'il y a des puits. Et que ces puits, dans la Bible, sont souvent des lieux de rencontre. Bon, j'en ai signalé quelques-uns. Agar, par exemple, lorsqu'elle est chassée par Abraham, il renvoie sa servante à cause des propos de Sarah et de son comportement à l'égard d'Agar. Et Agar va se retrouver donc dans le désert. Et c'est là que l'ange de l'Éternel va lui apparaître. Il est noté en Genèse 16, 7. Il lui apparut près d'une source d'eau dans le désert. C'est là que la rencontre a eu lieu. C'est là qu'Agar va être encouragée, etc. Bon. Et que Dieu fera des promesses pour Ismaël, son fils. Ensuite, Abraham va envoyer un jour son serviteur pour trouver une femme pour son fils Isaac. Il envoie son serviteur et le serviteur va être dirigé par Dieu près d'un puits, là où les troupeaux venaient boire, et c'est là qu'il va faire la rencontre de Rebecca, qui va le ramener avec lui. Et où Isaac va faire la connaissance de Rebecca, bien, il est marqué en Genèse 24, Isaac revenait du puits de Lachaïroï, qui veut dire « puits du Dieu vivant qui me voit ». Et c'est vrai que Dieu est un Dieu vivant qui nous voit et qui vient à notre rencontre. Et comment ne pas parler de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, bien sûr. En Jean 4, cette femme venait pour étancher une soif physique. Jésus va lui faire comprendre qu'elle a une autre soif à étancher qu'une soif spirituelle. Il dira, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et on sait comment Jésus va révéler à cette femme qu'il est précisément le Messie qu'elle attendait, et que, sur le témoignage de cette femme, les Samaritains vont venir aussi. Ils vont inviter Jésus à passer 2 jours avec lui, avec eux, et ils vont être touchés par ce que Jésus va leur dire. Et ils diront, il est écrit, ces gens qui le mettent dans son évangile, beaucoup rirent en lui, non seulement à cause de ce que la femme leur avait dit, mais suite à ce qu'ils avaient entendu eux-mêmes de la bouche de Jésus. Et on sait que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est là l'illustration, je dirais, de la façon dont Dieu amène les gens qui cherchent à le rencontrer dans des situations où ils vont ressentir cette soif, qui est une soif spirituelle, que seul il peut étancher. Et Dieu veut se révéler comme celui qui étanche toutes les soifs. Il va les étancher par l'eau de ce rocher qu'est Jésus. Et ça, on l'a lu dans 1 Corinthiens 10:4. Ils ont bu la même boisson, ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. Et voyez l'image, faites la comparaison. Moïse frappait le rocher, l'eau jaillissait pour nourrir le peuple. Jésus va souffrir sur la croix. Et là, sous les coups et sous la lance, son corps frappé va laisser s'écouler une source, il va couler du sang et de l'eau. Cette source va donner vie, hein, la vie éternelle, une vie à nos âmes, nous faire naître enfants de Dieu. Et donc Jésus, rocher, qui vient non seulement apaiser nos soifs, mais nous faire naître une vie nouvelle. Et on pourrait dire aussi que Jésus sera le pain de vie qui préfigurait déjà par la manne dans le désert. Aussi. Donc Dieu va nous amener à traverser souvent des situations de désert pour qu'on puisse, hein, prendre conscience, et parce qu'il veut nous abreuver surtout, donc de son esprit, de cette vie qui a coulé de son sang percé à la croix, de son cœur percé à la croix. Et des centaines d'années déjà, auparavant, Dieu avait parlé d'un exode spirituel, dans le prophète Ésaïe. Lisez avec moi Ésaïe, chapitre 35. On va lire à partir du verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux saussera comme un cerf, la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur cœur, leur tête, pardon. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. On voit déjà, il est parlé d'une route nouvelle, une route sainte que Dieu va tracer dans le désert. Et on pourrait lire, je vais vous citer quelques chapitres plus loin, et c'est en Ésaïe 43, versets 19 à 20. Dieu dit, j'ouvrirai un chemin à travers le désert, je ferai jaillir des fleuves dans la steppe pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu, je l'ai formé pour moi, il publiera ma gloire. Jésus est cette route qui, déjà dans le plan de Dieu, allait être tracée dans nos déserts pour qu'on puisse le rencontrer. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi. D'accord. Et attardons-nous maintenant à cette traversée du désert par Jésus. Le septième point, c'est que Jésus a tracé une route pour nous dans le désert. Jésus a commencé sa vie publique par 40 jours dans le désert. Vous relirez en Luc 4. Mais c'est important de le savoir parce qu'en fait, il n'y a pas meilleur guide que lui. Jésus peut nous guider dans le désert parce qu'en fait, d'une part, il y a vécu, donc il a connu les tentations, il y a vaincu, et surtout, il a tracé chemin, on vient de le lire, il est le chemin. Donc, Jésus va être tenté par le diable au bout de 40 jours dans le désert. Enfin, il va être tenté pendant 40 jours, même, nous dit l'évangile de Luc. Il a connu toutes nos tentations. Hébreux 4, 15 dira, Jésus va être tenté en tout point, comme nous pouvons l'être, à la différence qu'il n'a jamais commis de péché. Donc on retrouve Jésus dans le désert, et Satan s'approche de lui. Il va le tenter dans les trois composantes de qui nous sommes, corps, âme, esprit. Il va le tenter dans le corps par rapport à la nourriture. Jésus avait faim, tout comme il dira à Adam et Ève, parce qu'en fait, on fait le parallèle, là où Adam et Ève ont été tentés et ont cédé, Jésus va résister. Donc Jésus a faim, il est tenté au niveau de sa nourriture physique, Adam et Ève voient le fruit, il est bon à manger, ils ont envie de le manger. Bon. Il va être tenté au niveau de son âme. L'âme, c'est le siège des émotions, de la sensibilité, de la volonté, volonté de pouvoir. Jésus va être tenté par Satan qui va lui dire, si tu veux, je te donne tous ces royaumes, je te les donne. Donc, tu seras le meilleur, tu vas dominer tout le monde. Satan va dire à Adam et Ève, vous aurez l'intelligence, vos yeux vont s'ouvrir. Vous connaîtrez le bien et le mal. Ça, c'est au niveau de l'âme. Et au niveau de l'esprit, dans le rapport à Dieu, Satan va dire, si tu es fils de Dieu, tu te jettes du haut du temple, et Dieu va intervenir. Il va envoyer des anges pour que tu ne puisses pas te briser le pied. Il avait dit à Adam et Ève, vous serez comme Dieu. Rapport avec Dieu. La créature prend la place de Dieu. Donc, trois niveaux de tentation qu'on retrouve dans toutes les tentations auxquelles on peut être confronté. Jésus va résister, va citer la parole, et en dernier, il va encore dire, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il va se servir de la parole pour résister. Jésus a résisté. Et maintenant, nous, chrétiens qui avons la vie de Jésus, nous pouvons résister aux tentations. Et on l'a lu, mais je le mets à nouveau, donc 1 Corinthiens 10, donc 13, effectivement, un verset qui est connu. Dieu veille à ce que nous ne soyons jamais tentés au-delà de nos forces, et au moment de la tentation, il prépare le moyen pour que nous puissions résister. Donc ça, c'est important. On a cette route dans le désert, cette route, une route sur laquelle on marche victorieux, on marche libre de tout péché, aussi bien dans notre relation par rapport à nous, par rapport aux autres et par rapport à Dieu. Donc, c'est important. Et si on peut marcher en vainqueur, à ce moment-là, on peut dire qu'on est prêt à servir Dieu. Et là, le désert, il aura fait son œuvre, il aura fait de nous des serviteurs capables de consacrer notre vie à Dieu. Et c'est le dernier point que je voudrais vous mentionner, c'est que le désert est une école de consécration et d'appel au service. Avant de faire entrer la nouvelle génération dans la terre promise, Josué va leur dire, Josué 3:5, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. » Donc le peuple s'est sanctifié, et c'est ce que Dieu a fait. Il aura à nouveau assisté à un miracle étonnant, c'est que le Jourdain s'est ouvert comme la mer Rouge. Bon. Et l'arche était là au milieu du fleuve tenu par les sacrificateurs. Les eaux se sont retirées, le peuple a traversé. Prodige, au milieu d'un peuple qui s'était sanctifié. Et c'est important de savoir que Dieu veut faire des prodiges, mais souvent, je dirais un peu comme condition, mais il veut qu'on le reconnaisse comme le Dieu saint, et donc que nous-mêmes, on se sanctifie. Et ça, c'est important. Et c'est souvent, c'est le but de la formation que Dieu nous fait traverser. Quand on réalise la sainteté de Dieu, on est saisi. Rappelez-vous, Ésaïe, il a vu la gloire de Dieu dans le temple. Un malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Un séraphin lui touche les lèvres, et une voix va lui dire, ne dis plus, je suis impur, ton péché est pardonné. Et Dieu dira, qui enverrai-je ? Et me voici. Quand on fait une expérience de qui est Dieu, la grandeur de Dieu, la chanté Dieu, quand on est saisi, on ne peut plus rien refuser à Dieu. Et quand Dieu dit va, on y va. Okay. Donc là, j'ai cité quelques exemples d'hommes qui ont été. Qui sont passés par l'école du désert. On peut en citer plus. Bon, on prend les plus connus, les plus parlants. Joseph, fils de Jacob. Avant d'accéder au titre de gouverneur d'Égypte, d'être le personnage donc le plus important après Pharaon. Et grâce à lui, on sait que l'Égypte ne va pas connaître la famine. Grâce à Joseph, le peuple hébreu non plus va pouvoir être sauvé de la famine. Mais avant d'arriver à ce poste de gouverneur d'Égypte, Joseph a connu la traversée du désert, d'abord au sens physique, parce qu'effectivement, il va être vendu par ses frères à une caravane de Madianites qui traversait, qui allait en Égypte. Et surtout, au sens spirituel, c'est que, accusé à tort par la femme de son maître Potiphar, il va être jeté en prison. Et il va y rester longtemps. Ça, c'est le désert de Joseph. On peut penser à Moïse. Moïse, donc, avant d'avoir sa révélation dans le buisson ardent, qu'est-ce qu'il faisait Moïse ? Il gardait les troupeaux de son beau-père. Pendant 40 ans, lui qui a été 40 ans à la cour de Pharaon, qui a connu les honneurs, pendant 40 ans, il est avec les moutons. Le simple berger. Dieu le prépare dans l'humilité, dans la disponibilité. En conduisant un troupeau de moutons, il sera prêt à conduire le troupeau de Dieu, le peuple de Dieu. On peut parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il vivait dans le désert. Et Dieu va l'utiliser, il va être cette voix dans le désert qui va préparer le chemin. Repentez-vous. Et il prépare les cœurs à la vue de Jésus. Ça se passe dans le désert. Donc, ça, c'est la pédagogie de Dieu. Très souvent, avant de nous utiliser pour sa gloire, il nous fait passer une période de désert. Pour qu'on prenne conscience de nos besoins, d'une part, mais qu'on prenne conscience de qui il est. Et il veut nous faire expérimenter qu'il est le Dieu de l'impossible. Bon. Et là, j'insiste dessus parce que c'est important. Hein. Puis on l'a chanté, Dieu est grand. Mais Dieu, il peut tout. Il peut tout. Bon. Et quand on dit impossible, on pense à tous les miracles, c'est vrai. Bon. On ne va pas reparler, mais si quand même, je redis. Repensez la traversée de la mer Rouge. C'est vraiment le miracle type d'une situation sans issue. Bon. La mer devant, infranchissable, et les cavaliers qui viennent pour tuer tout le monde. Bon, ça, c'est vraiment typique. On vit humainement, il n'y a pas d'issue. Bon, Dieu ouvre la mer en deux. Et c'est pour ça que souvent, on rappelle ce miracle de la traversée de la mer Rouge. C'est vraiment en référence à un Dieu qui peut tout. Ni la mer, ni le feu, ni les ennemis, rien ne peut empêcher quelqu'un d'avancer dans la route que Dieu a prévue pour lui. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, d'accord ? Et Dieu va même faire mieux que d'ouvrir un chemin à travers la mer, il va ouvrir un chemin à travers la mort en Jésus. Et ça, c'est important. Parce que ce chemin étant ouvert à travers la mort, eh bien, maintenant, on sait que si on marche à la suite de Jésus, on va passer à travers des déserts, c'est vrai, mais chaque fois, on sait où ça mène. On s'amène vers une éternité glorieuse. Bon, j'en ai assez dit. Maintenant, laissons Saint-Esprit quand même l'interpeller. Bon. Il se peut que chacun d'entre nous, bon, peut-être qu'on a connu des périodes de désert, peut-être qu'en ce moment tout va bien, hein, bon, c'est bien. Mais si quelqu'un est dans un désert, eh bien, je vous rappelle ce qui est important de savoir, c'est que Dieu le veut. Dieu le veut parce qu'il a des choses à nous dire. Il veut mettre le doigt sur peut-être des façons de faire qu'on doit revoir. Des pratiques à changer, peut-être que bon, il veut qu'on améliore notre façon de faire à son égard. Bon, Dieu veut nous parler, c'est vrai. Mais non seulement S'il veut nous corriger, c'est surtout pour nous encourager. C'est parce qu'il nous aime, faut pas l'oublier. Il est là, il est toujours à nos côtés, et il veut nous encourager. Tu es dans ton désert, mais bon, continue, tu vas voir, un jour ton désert, il y aura des fleurs, tu verras, bon, hein, il y a la vie qui va réapparaître, et puis surtout, tu vas arriver dans le pays de bénédiction que j'ai prévu pour toi. Donc ça, c'est important. Ça va. Dieu nous rappelle qu'il est fidèle, donc s'il nous a fait des promesses, il va les réaliser. On n'a pas à s'inquiéter. Donc dans le désert, il est là, c'est sûr. Ça nous paraît des situations impossibles humainement, c'est fichu. Non, il est le Dieu de l'impossible. Donc il faut lui faire confiance. Et peut-être qu'on a l'école de l'obéissance, parce que c'est vrai qu'on aurait envie un peu de désobéir, de ne pas se plier à ce que Dieu veut. Mais je vous rappelle quand même que Jésus a appris l'obéissance à travers la souffrance. On apprend à obéir à Dieu, c'est souvent à travers la souffrance. C'est pas quand tout va bien. Ouais. Donc Dieu nous lance un défi. Ça va mal, montre-moi que tu m'aimes, montre-moi que tu es prêt à m'obéir, montre-moi effectivement que tu veux faire ce que je te demande. Alors, le problème, en fait, c'est pas le désert en lui-même. Le problème, c'est à qui vais-je demander de m'accompagner, en fait. Et Moïse, d'ailleurs, c'est la question qu'il a posée à Dieu. Quand Dieu a voulu donc le mettre à la tête de son peuple, Moïse a dit, si tu viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. Bon, nous, on n'a même pas à dire ça à Dieu. On n'a même pas à lui poser la question. On le sait, Jésus nous a donné cette promesse. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Sa présence, elle est là, elle est assurée. Ce qu'il faut, c'est être renouvelé toujours dans notre vision, finalement. Hein, avoir les yeux toujours sur Jésus et de savoir que voilà, il est sur le chemin. On marche. Hein, enfin, il marche à ses côtés, il marche devant. C'est nous qui suivons, en fait. Mais il faut savoir si on veut le suivre ou si on préfère s'égarer à droite ou à gauche. C'est la question que nous est posée. C'est important, je crois. Donc, soyons rassurés, même si on est en période de désert, période de canicule, oui, ça, c'est physique. Spirituellement, on peut être aussi canicule spirituelle, c'est moins évident. Mais, merci Seigneur pour cette foi que tu nous as donnée et cette foi que tu veux nous faire grandir. Et, oui, j'ai oublié de le dire, vous l'aviez vu, la photo parlait d'elle-même, hein. Jésus est notre berger. Donc, il est dans le désert. Nous, on est le troupeau dans le désert, mais il nous conduit. Il nous mène vers des lieux de rafraîchissement. Bon. Et même si on passe par la vallée de l'ombre de la mort, on craint. Il nous protège, c'est vrai. Sa grâce nous accompagne tous les jours de la vie. Donc, c'est important, ça. Donc, soyez encouragés par cette parole du Seigneur. C'est que, bon. Et si tout va bien pour vous, là, tirez quand même profit de ce que j'ai dit en sachant que, et là, pensez à Jean-Baptiste, bon, vous n'êtes pas dans le désert, c'est bien, mais il y a des gens autour de vous dans le désert. Votre présence, Dieu est présent en vous, donc vous avez cette présence de Dieu. Frayez un chemin pour ceux qui sont dans leur désert. Ben oui. Gloire à Dieu, vous n'y êtes pas pour l'instant. Bon, mais il y en a qui y sont. Soyez la voix qui crie à ceux qui sont dans le désert. Voilà, le chemin, il est là. C'est Jésus. C'est important. Et Seigneur, on veut te prier encore. Seigneur, merci pour cette foi que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour cette foi qui nous fait que nous savons qui tu es, Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu qui nous donne la vie, tu es ce Dieu qui peut tout, qui a fait de nous tes enfants, Seigneur, et tu as des projets pour nous, notamment, Seigneur, cette éternité glorieuse que tu veux nous faire partager un jour, Seigneur. Et ça, nous y croyons. Hein, tu es ce Père qui prend soin de ses enfants, Seigneur. Merci pour cette foi en Jésus. Nous savons que Jésus est venu, qu'il est mort pour nous, qu'il a donné la vie. Nous croyons l'efficacité de sa mort sur la croix. Et nous croyons sur sa résurrection, Seigneur. Nous savons qu'il est auprès de toi, qu'il intercède pour nous, Seigneur. Et nous savons qu'il est là à nos côtés. Merci pour cette foi, Seigneur. Nous savons que Jésus, il nous aide dans cette traversée de nos déserts, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit, parce que nous avons foi qu'il est vivant en nous, qu'il agit au travers de nous, ce Saint-Esprit. C'est lui qui vraiment nous renouvelle chaque jour, qui nous conseille, Seigneur, qui nous exhorte à aller de l'avant, qui nous fortifie, qui donne sa sagesse, Seigneur. Merci, Seigneur. Et cette foi, tu veux qu'elle augmente encore, Seigneur, qu'elle soit encore plus efficace, Seigneur. Et c'est notre désir aussi, augmente notre foi, Seigneur. Et si ça doit passer par des déserts, eh bien, Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur. Parce qu'en fait, nous savons, et pas que nous en sortirons fortifiés, nous en sortirons plus aptes à te servir, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. Merci, Seigneur, et bien de de remplir nos cœurs encore, en abondance, Seigneur, hein, de ta force, de la puissance de ton esprit, Seigneur, de ton amour, de ta grâce, Seigneur. Fais de nous ces ouvriers pour ton œuvre, Seigneur, et que eh bien, nous puissions aussi, en le vivant, montrer à ceux qui nous entourent eh bien, que tu es vraiment ce chemin, que c'est toi seul qui abreuve les soifs de tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. On te le demande au nom de Jésus. Amen.